Chapitre 19. Ce qui se passait dans la maison mystérieuse, le laboratoire. Tandis que l'hôtellerie du fier chevalier, ses jours apparents de la concorde la plus parfaite, laissait portes closes mais caves ouvertes, filtrer à travers les fentes de ses volets la lumière des bougies et la joie des convives, un mouvement inaccoutumé avait lieu dans cette maison mystérieuse que nos lecteurs n'ont jamais vue qu'extérieurement dans les pages de ce récit. Le serviteur au front chaud allait et venait d'une chambre à l'autre, portant çà et là des objets empaquetés qu'il enfermait dans une caisse de voyage. Ses premiers préparatifs terminés, il chargea un pistolet et fit jouer dans sa gaine de velours un large poignard, puis il le suspendit, à l'aide d'un anneau, à la chaîne qui lui servait de ceinture, à laquelle il attacha en outre son pistolet, un trousseau de clés et un livre de prières relié en chagrin noir. Tandis qu'il s'occupait ainsi, un pas léger comme celui d'une ombre effleurait le plancher du premier étage et glissait le long de l'escalier. Mais tout à coup, une femme pâle et pareille à un fantôme sous les plis de son voile blanc apparut au seuil de la porte et une voix douce et triste comme un chant d'oiseau au fond d'un bois se fit entendre. « Remy, dit cette voix, êtes-vous prêt ?» Oui, madame, et je n'attends plus à cette heure que votre cassette pour la joindre à la mienne. Croyez-vous donc que ces boîtes seront facilement chargées sur nos chevaux? J'en réponds, madame. D'ailleurs, si cela vous inquiète le moins du monde, nous pouvons nous dispenser d'emporter la mienne. N'ai-je point là-bas tout ce qu'il me faut? Non, Rémy, non, sous aucun prétexte je ne veux que vous ne manquiez du nécessaire en route. Et puis, une fois là-bas, le pauvre vieillard étant malade, tous les domestiques seront occupés autour de lui. Oh, Rémy, j'ai hâte de rejoindre mon père. J'ai de tristes pressentiments, et il me semble que depuis un siècle, je ne l'ai pas vu. Cependant, madame, dit Rémy, vous l'avez quitté il y a 3 mois, et il n'y a pas entre ce voyage et le dernier plus d'intervalle qu'entre les autres. Rémy, vous qui êtes si bon médecin, ne m'avez-vous pas avoué vous-même en le quittant la dernière fois que mon père n'avait plus longtemps à vivre? Oui, sans doute, mais c'était une crainte exprimée et non une prédiction faite. Dieu prend parfois en oubli les vieillards et ils vivent, c'est étrange à dire, par l'habitude de vivre. Il y a même plus, parfois encore, le vieillard est comme l'enfant, malade aujourd'hui, dispos demain. Hélas, Rémy, et comme l'enfant aussi, le vieillard dispos aujourd'hui, demain est mort. Rémy ne répondit pas, car aucune réponse rassurante ne pouvait réellement sortir de sa bouche, et un silence lugubre succéda pendant quelques minutes au dialogue que nous venons de rapporter. Chacun des deux interlocuteurs resta dans sa position morne et pensive. « Pour quelle heure avez-vous demandé les chevaux, Rémy ?» demanda enfin la dame mystérieuse. « Pour 2 heures après minuit. Une heure vient de sonner. Oui, madame. Personne ne guette au dehors, Rémy. Personne. Pas même ce malheureux jeune homme. Pas même lui. » Rémy soupira. « Vous dites cela d'une façon étrange, Rémy. C'est que celui-là aussi a pris une résolution. » « Laquelle ?» demanda la dame en tressaillant. « Celle de ne plus nous voir, ou du moins de ne plus essayer de nous voir. »« Et où va-t-il ? Où nous allons tous, au repos ?»« Dieu le lui donne éternel, » répondit la dame d'une voix grave et froide, comme un glas de mort. « Et cependant ?» elle s'arrêta. « Cependant, » reprit Rémy, « n'y avait-il rien à faire en ce monde ?» Il avait à aimer si l'on l'eût aimé. Un homme de son nom, de son rang et de son âge devrait compter sur l'avenir. Y comptez-vous, vous, madame, qui êtes d'un âge, d'un rang et d'un nom qui n'ont rien à envier au sien? Les yeux de la dame lancèrent une sinistre lueur. Oui, remit dit-elle, j'y compte puisque je vis, mais attendez donc, elle prêta l'oreille. N'est-ce pas le trot d'un cheval que j'entends? Oui, ce me semble. Serait-ce déjà notre conducteur? C'est possible, mais en ce cas, il aurait devancé le rendez-vous de près d'une heure. On s'arrête à la porte, Remy. En effet. Remy descendit précipitamment et arriva au bas de l'escalier au moment où trois coups, rapidement heurtés, se faisaient entendre. « Qui va là ?» demanda Remy. « Moi !» répondit une voix cassée et tremblante. « Moi, Grandchamp, le valet de chambre du baron. » « Ah, mon Dieu, vous, Grandchamp, vous, à Paris, attendez, je vous ouvre, mais parlez bas !» Et il ouvrit la porte. « D'où venez-vous donc ?» demanda Remy à voix basse. « De Méridor. »« De Méridor ? Oui, cher monsieur Remy, hélas. Entrez, entrez vite, mon Dieu !»« Eh bien, Remy, » dit du haut de l'escalier la voix de la dame, « sont-ce nos chevaux ?»« Non, non, madame, ce ne sont pas eux. » Puis, revenant au vieillard, « Qu'y a-t-il, mon bon Grandchamp ?»« Vous ne devinez pas, » répondit le serviteur. « Hélas, si, je devine, mais au nom du ciel, ne lui annoncez pas cette nouvelle tout d'un coup. Oh, que va-t-elle dire, la pauvre femme ?»« Remy, Remy, » dit la voix, « vous causez avec quelqu'un, ce me semble. »« Oui, madame, oui, avec quelqu'un dont je reconnais la voix. » « En effet, madame, comment l'aménager, un Grandchamp, la voilà !» La dame qui était descendue du premier au rez-de-chaussée, comme elle était descendue déjà du second au premier, apparut à l'extrémité du corridor. « Qui est là ? » demanda-t-elle. « On dirait que c'est Grandchamp. »« Oui, madame, c'est moi, » répondit humblement et tristement le vieillard en découvrant sa tête blanche. « Grandchamp, toi ? Oh mon Dieu, mes pressentiments ne m'avaient point trompé. Mon père est mort. »« En effet, madame, » répondit Grandchamp, oubliant toutes les recommandations de Remy, « et en effet, Méridor n'a plus de maître. » Pâle, glacé, mais immobile et ferme, la dame supporta le coup sans fléchir. Remy, la voyant si résignée et si sombre, alla à elle et lui prit doucement la main. « Comment est-il mort ?» demanda la dame. « Dites, mon ami. » « Madame, monsieur le baron, qui ne quittait plus son fauteuil, a été frappé, il y a 8 jours, d'une troisième attaque d'apoplexie. Il a pu, une dernière fois, balbutier votre nom, puis il a cessé de parler, et dans la nuit, il est mort. » Diane fit au vieux serviteur un geste de remerciement. Puis, sans ajouter un mot, elle remonta dans sa chambre. « Enfin, la voilà libre, » murmura Remy, plus sombre et plus pâle qu'elle. « Venez, Grandchamp, venez !» La chambre de la dame était située au premier étage, derrière un cabinet, qui avait vue sur la rue, tandis que cette chambre elle-même ne tirait son jour que d'une petite fenêtre percée sur une cour. L'ameublement de cette pièce était sombre, mais riche. Les tentures, en tapisserie d'Arras, les plus belles de l'époque, représentaient les divers sujets de la Passion. Un prie-dieu en chêne sculpté, une stalle de la même matière et du même travail, un lit à colonnes torses, avec des tapisseries pareilles à celles des murs, enfin un tapis de Bruges, voilà tout ce qui ornait la chambre. Pas une fleur, pas un joyau, pas une dorure, le bois et le fer bruni remplaçaient partout l'argent et l'or. Un cadre de bois noir enfermait un portrait d'homme, placé dans un pan coupé de la chambre et sur lequel donnait le jour de la fenêtre, évidemment percé pour l'éclairer. Ce fut devant ce portrait que la dame alla se genouiller, avec un cœur gonflé, mais des yeux arides. Elle attacha sur cette figure inanimée un long et indicible regard d'amour, comme si cette noble image allait s'animer pour lui répondre. Noble image, en effet, et l'épithète semblait faite pour elle. Le peintre avait représenté un jeune homme de 28 à 30 ans, couché moitié nu sur un lit de repos. De son sein entr'ouvert tombaient encore quelques gouttes de sang. Une de ses mains, la main droite, pendait mutilée, et cependant elle tenait encore un tronçon d'épée. Ses yeux se fermaient comme ceux d'un homme qui va mourir. La pâleur et la souffrance donnaient à cette physionomie un caractère divin que le visage de l'homme ne commence à prendre qu'au moment où il quitte la vie pour l'éternité. Pour toute légende, pour toute devise, on lisait sous ce portrait, en lettres rouges comme du sang, « Haut César, haut nihil ». La dame étendit le bras vers cette image et, lui adressant la parole, comme elle l'eût fait à un dieu, « Je t'avais supplié d'attendre, quoique ton âme irritée dût être altérée de vengeance, dit-elle, et comme les morts voient tout, oh mon amour, tu as vu que je n'ai supporté la vie que pour ne pas devenir parricide. Toi, mort, j'eusse dû mourir, mais en mourant, je tuais mon père. Et puis, tu le sais encore, sur ton cadavre sanglant, j'avais fait un vœu, j'avais juré de payer la mort, le sang par le sang. Mais alors que je chargeais d'un crime la tête blanchie du vénérable vieillard qui m'appelait son innocent enfant, tu as attendu, merci, bien-aimé, tu as attendu, et maintenant je suis libre. Le dernier lien qui m'enchaînait à la terre vient d'être brisé par le Seigneur. Ô Seigneur, grâce soit rendue, je suis tout à toi. Plus de voile, plus d'embûches, je puis agir au grand jour, car maintenant je ne laisserai plus personne après moi sur la terre. J'ai le droit de la quitter. » Elle se releva sur un genou et baisa la main qui semblait pendre hors de son cadre. « Tu me pardonnes, ami, dit-elle, d'avoir les yeux arides. C'est en pleurant sur ta tombe que mes yeux se sont desséchés, ces yeux que tu aimais tant. Dans peu de mois, j'irai te rejoindre, et tu me répondras enfin, chère ombre à qui j'ai tant parlé, sans jamais obtenir de réponse. » À ces mots, Diane se releva respectueusement, comme si elle eût fini de converser avec Dieu. Elle alla s'asseoir sur la stalle de chêne. « Pauvre père, murmura-t-elle d'un ton froid, et avec une expression qui semblait n'appartenir à aucune créature humaine. Puis elle s'abîma dans une rêverie sombre qui lui fit oublier, en apparence, le malheur présent et les malheurs passés. Et tout à coup, elle se dressa, la main appuyée au bras du fauteuil. « C'est cela, dit-elle, et aussi tout sera mieux. « Remis !» Le fidèle serviteur écoutait sans doute à la porte, car il apparut aussitôt. « Me voici, madame, répondit-il. « Mon digne ami, mon frère, dit Diane, vous, la seule créature qui me connaisse en ce monde, dites-moi adieu. « Pourquoi cela, madame ?»« Parce que l'heure est venue de nous séparer, Remis. » « Nous séparer ? » s'écria le jeune homme avec un accent qui fit tressaillir sa compagne. « Que dites-vous, madame ?»« Oui, Remis, ce projet de vengeance me paraissait noble et pur, tant qu'il y avait un obstacle entre lui et moi, tant que je ne l'apercevais qu'à l'horizon. Ainsi sont les choses de ce monde, grandes et belles de loin. Maintenant que je touche à l'exécution, maintenant que l'obstacle a disparu, je ne recule pas, Remis. » Mais je ne veux pas entraîner à ma suite, dans le chemin du crime, une âme généreuse et sans tache. Ainsi vous me quitterez, mon ami. Toute cette vie passée dans les larmes me comptera comme une expiation devant Dieu et devant vous, et elle comptera aussi à vous, je l'espère. Et vous, qui ne m'avez jamais fait et qui ne me ferez jamais de mal, vous serez deux fois sûr du ciel. » Remis avait écouté les paroles de la dame de Montsoreau avec un air sombre et presque hautain. « Madame, répondit-il, croyez-vous donc parler à un vieillard trembleur usé par l'abus de la vie ? Madame, j'ai 26 ans, c'est-à-dire toute la sève de la jeunesse qui paraît tarie en moi. Cadavre arraché à la tombe, si je vis encore, c'est pour l'accomplissement de quelque action terrible, c'est pour jouer un rôle actif dans l'œuvre de la Providence. » Ne séparez donc jamais ma pensée de la vôtre, madame, puisque ces deux pensées sinistres ont si longtemps habité sous le même toit. Où vous irez, j'irai. Ce que vous ferez, je vous y aiderai. Sinon, madame, et si, malgré mes prières, vous persistiez dans cette intention de chasser, murmura la jeune dame, vous chassez, quel mot avez-vous dit là, Remis? Si vous persistez dans cette résolution, continua le jeune homme, comme si elle n'avait point parlé, « je sais ce que j'ai à faire, moi, et toutes nos études devenues inutiles aboutiront pour moi à deux coups de poignard, l'un que je donnerai dans un cœur que vous connaissez, l'autre dans le mien. Remis, s'écria Diane, en faisant un pas vers le jeune homme et en étendant impérativement sa main au-dessus de sa tête. Remis, ne dites pas cela. La vie de celui que vous menacez ne vous appartient pas, elle est à moi. Je l'ai payée assez cher pour la lui prendre moi-même quand le moment où il doit la perdre sera venu. Vous savez ce qui est arrivé, Remis, et ce n'est point un rêve, je vous le jure, le jour où j'allais m'agenouiller devant le corps déjà froid de celui-ci. » Et elle montra le portrait. « Ce jour, dis-je, j'approchais mes lèvres des lèvres de cette blessure que vous voyez ouverte, et ses lèvres tremblèrent en me disant « Venge-moi, Diane, venge-moi. » « Madame, Remis, je te le répète, ce n'était pas une illusion, ce n'était pas un bourdonnement de mon délire. La blessure a parlé, elle a parlé, te dis-je, et je l'entends encore murmurer « Venge-moi, Diane, venge-moi. » Le serviteur baissa la tête. « C'est donc à moi, et non pas à vous, la vengeance, » continua Diane. « D'ailleurs, pour qui et par qui est-il mort? Pour moi et par moi. » « Je dois vous obéir, madame, » répondit Remis, « car j'étais aussi mort que lui. Qui m'a fait enlever du milieu des cadavres dont cette chambre était jonchée? Vous. Qui m'a guéri de mes blessures? Vous. Qui m'a caché? Vous, vous, c'est-à-dire la moitié de l'âme de celui pour lequel j'étais mort si joyeusement. Ordonnez donc, j'obéirai, pourvu que vous n'ordonniez pas que je vous quitte. Soit, Remis, suivez donc ma fortune, vous avez raison, rien ne doit plus nous séparer. » Remis montra le portrait. « Maintenant, madame, dit-il avec énergie, il a été tué par trahison, c'est par trahison qu'il doit être vengé. « Ah, vous ne savez pas une chose, vous avez raison, la main de Dieu est avec nous, vous ne savez pas que cette nuit j'ai trouvé le secret de l'aqua tofana, ce poison des Médicis, ce poison de René le Florentin. Ah, tu dis vrai? Venez voir, madame, venez voir. Mais Grandchamp qui attend, que dira-t-il de ne plus nous voir revenir, de ne plus nous entendre, car c'est en bas, n'est-ce pas, que tu veux me conduire? Le pauvre vieillard a fait à cheval 60 lieues, madame. Il est brisé de fatigue et vient de s'endormir sur mon lit. Venez. » Diane suivit Remis. Remis emmena la dame inconnue dans la chambre voisine, et poussant un ressort caché sous une lame du parquet, il fit jouer une trappe qui glissait dans la largeur de la chambre jusqu'au mur. Cette trappe, en s'ouvrant, laissait apercevoir un escalier sombre, raide et étroit. Remis s'y engagea le premier et tendit son poing à Diane, qui s'y appuya et descendit après lui. 20 marches de cet escalier, ou pour mieux dire de cette échelle, conduisaient dans un caveau circulaire, noir et humide, qui, pour tout meuble, renfermait un fourneau avec son âtre immense, une table carrée, 2 chaises de jonc, quantité de fioles et de boîtes de fer. Et pour tous habitants, une chèvre sans bêlement et des oiseaux sans voix, qui semblaient dans ce lieu obscur et souterrain les spectres des animaux dont ils avaient la ressemblance et non plus ces animaux eux-mêmes. Dans le fourneau, un reste de feu s'en allait mourant, tandis qu'une fumée épaisse et noire fuyait silencieuse par un conduit engagé dans la muraille. Un alambic posé sur l'âtre laissait filtrer lentement et goutte à goutte une liqueur jaune comme l'or. Ces gouttes tombaient dans une fiole de verre blanc épais de 2 doigts, mais en même temps de la plus parfaite transparence et qui était fermée par le tube de l'alambic qui communiquait avec elle. Diane descendit et s'arrêta au milieu de tous ces objets, à l'existence et aux termes étranges, sans étonnement et sans terreur. On eût dit que les impressions ordinaires de la vie ne pouvaient plus avoir aucune influence sur cette femme qui vivait déjà hors de la vie. Remis lui fit signe de s'arrêter au pied de l'escalier. Elle s'arrêta où lui disait Remis. Le jeune homme alla allumer une lampe qui jeta un jour livide sur tous les objets que nous venons de détailler et qui, jusque-là, dormaient ou s'agitaient dans l'ombre. Puis il s'approcha d'un puits creusé dans le caveau, touchant aux parois d'une des murailles et qui n'avait ni parapet ni margelle, attacha un seau à une longue corde, laissa glisser la corde sans poulie dans l'eau qui sommeillait sinistrement au fond de cet entonnoir et qui fit entendre un sourd clapotement. Enfin, il ramena le seau plein d'une eau glacée et pure comme le cristal. « Approchez, madame, » dit Remy. Diane s'approcha. Dans cette énorme quantité d'eau, il laissa tomber une seule goutte du liquide contenu dans la fiole de verre, et la masse entière de l'eau se teignit à l'instant même d'une couleur jaune. Puis cette couleur s'évapora, et l'eau, au bout de 10 minutes, était devenue transparente comme auparavant. La fixité des yeux de Diane donnait seule une idée de l'attention profonde qu'elle donnait à cette opération. Remy la regarda. « Eh bien ?» demanda celle-ci. « Eh bien, trempez maintenant, » dit Remy, « dans cette eau qui n'a ni saveur ni couleur, trempez une fleur, un gant, un mouchoir. Pétrissez avec cette eau des savons de senteur, versez-en dans l'aiguillère où l'on puisera pour se laver les dents, les mains et le visage, et vous verrez, comme on le vit naguère à la cour du roi Charles IX, la fleur étouffée par son parfum, le gant empoisonné par son contact, le savon tué par son introduction dans les pores. Versez une seule goutte de cette huile pure sur la mèche d'une bougie ou d'une lampe, le coton s'en imprégnera jusqu'à 1 pouce à peu près, et pendant 1 heure, la bougie ou la lampe exhalera la mort, pour brûler ensuite aussi innocemment qu'une autre lampe ou une autre bougie. « Vous êtes sûr de ce que vous dites là, Remy ?» demanda Diane. Oh, « Toutes ces expériences, je les ai faites, madame. Voyez ces oiseaux qui ne peuvent plus dormir et qui ne veulent plus manger. Ils ont bu de l'eau pareille à cette eau. Voyez cette chèvre qui a brouté de l'herbe arrosée de cette même eau. Elle mue et ses yeux vacillent. Nous aurons beau la rendre maintenant à la liberté, à la lumière, à la nature, sa vie est condamnée. » À moins que cette nature à laquelle nous la rendrons ne révèle à son instinct quelques-uns de ces contrepoisons que les animaux devinent et que les hommes ignorent. « Peut-on voir cette fiole, Remy ?» demanda Diane. « Oui, madame, car tout le liquide est précipité à cette heure, mais attendez !» Remy la sépara de l'alambic avec des précautions infinies, puis aussitôt il la boucha d'un tampon de molle cire qu'il aplatit à la surface de son orifice, et enveloppant cet orifice d'un morceau de laine, il présenta le flacon à sa compagne. Diane le prit sans émotion aucune, le souleva à la lueur de la lampe, et après avoir regardé quelque temps la liqueur épaisse qu'il contenait, « Il suffit, dit-elle, nous choisirons, lorsqu'il sera temps, du bouquet, des gants, de la lampe, du savon ou de l'aiguillère. » « La liqueur tient-elle dans le métal ?»« Elle le ronge. »« Mais alors ce flacon se brisera peut-être ?»« Je ne crois pas. Voyez l'épaisseur du cristal. D'ailleurs nous pourrons l'enfermer, ou plutôt l'emboîter dans une enveloppe d'or. »« Alors, Remy, reprit la dame, vous êtes content, n'est-ce pas ?» Et quelque chose comme un pâle sourire effleura les lèvres de la dame et leur donna ce reflet de vie qu'un rayon de la lune donne aux objets engourdis. « Plus que je ne fus jamais, madame, » répondit celui-ci, « punir les méchants, c'est jouir de la sainte prérogative de Dieu. »« Écoutez, Remy, écoutez. » Et la dame prêta l'oreille. « Vous avez entendu quelque bruit ?»« Le piétinement des chevaux dans la rue, ce me semble. Remy, nos chevaux sont arrivés. »« C'est probable, madame, car il est à peu près l'heure à laquelle ils devaient venir. Mais maintenant je vais les renvoyer. » « Pourquoi cela ? Ne sont-ils plus inutiles ? Au lieu d'aller à Méridor, Remy, nous allons en Flandre. Gardez les chevaux. »« Ah, je comprends. » Et les yeux du serviteur, à leur tour, laissèrent échapper un éclair de joie qui ne pouvait se comparer qu'au sourire de Diane. « Mais, Grandchamp, ajouta-t-il, qu'allons-nous en faire ? Grandchamp a besoin de se reposer, je vous l'ai dit. » Il demeurera à Paris et vendra cette maison dont nous n'avons plus besoin. Seulement vous rendrez la liberté à tous ces pauvres animaux innocents que nous avons fait souffrir par nécessité. Vous l'avez dit, Dieu pourvoira peut-être à leur salut. Mais tous ces fourneaux, ces cornues, ces alambics, puisqu'ils étaient ici quand nous avons acheté la maison, qu'importe que d'autres les y trouvent après nous. mais ses poudres, ses acides, ses essences, au feu remis au feu. Éloignez-vous alors. Moi, oui, ou du moins mettez ce masque de verre. » Et Remi présenta à Diane un masque qu'elle appliqua sur son visage. Alors, appuyant lui-même sur sa bouche et sur son nez un large tampon de laine, il pressa le cordon du soufflet, aviva la flamme du charbon, puis, quand le feu fut bien embrasé, il y versa les poudres, qui éclatèrent en pétillements joyeux, les unes lançant des feux verts, les autres se volatilisant en étincelles pâles comme le soufre. Et les essences, qui, au lieu d'éteindre la flamme, montèrent comme des serpents de feu dans le conduit, avec des grondements pareils à ceux d'un tonnerre lointain. Enfin, quand tout fut consumé, « Vous avez raison, madame, » dit Remi, « si quelqu'un maintenant découvre le secret de cette cave, ce quelqu'un pensera qu'un alchimiste l'a habité. Aujourd'hui, on brûle encore les sorciers, mais on respecte les alchimistes. Hein. »« D'ailleurs, » dit la dame, « quand on nous brûlerait, Remi, ce serait justice, ce me semble. Ne sommes-nous point des empoisonneurs ? Et pourvu qu'au jour où je monterai sur le bûcher, j'ai accompli ma tâche, je ne répugne pas plus à ce genre de mort qu'à un autre. La plupart des anciens martyrs sont morts ainsi. » Remi fit un geste d'assentiment, et reprenant sa fiole des mains de sa maîtresse, il l'empaqueta soigneusement. En ce moment, on heurta à la porte de la rue. « Ce sont vos gens, madame. Vous ne vous trompiez pas. Vite, remontez et répondez, tandis que je vais fermer la trappe. » La dame obéit. Une même pensée vivait tellement dans ces deux corps qu'il eût été difficile de dire lequel des deux pliait l'autre sous sa domination. Remi remonta derrière elle et poussa le ressort. Le caveau se referma. Diane trouva Grandchamp à la porte, éveillé par le bruit, il était venu ouvrir. Le vieillard ne fut pas peu surpris quand il connut le prochain départ de sa maîtresse, qui lui apprit ce départ sans lui dire où elle allait. « Grandchamp, mon ami, lui dit-elle, nous allons, Remi et moi, accomplir un pèlerinage, voté depuis longtemps. Vous ne parlerez de ce voyage à personne, et vous ne révélerez mon nom à qui que ce soit. »« Oh, je le jure, madame, » dit le vieux serviteur, « mais on vous reverra, cependant. »« Sans doute, Grandchamp, sans doute. Ne se revoit-on pas toujours, quand ce n'est point en ce monde, dans l'autre du moins ?» Mais à propos, Grandchamp, cette maison nous devient inutile. Diane tira d'une armoire une liasse de papier. Voici les titres qui constatent la propriété. Vous louerez ou vendrez cette maison. Si d'ici à un mois vous n'avez trouvé ni locataire ni acquéreur, vous l'abandonnerez tout simplement et vous retournerez à Méridor. Et si je trouve acquéreur, madame, combien la vendrai-je? Ce que vous voudrez. Alors je rapporterai l'argent à Méridor. « Vous le garderez pour vous, mon vieux Grandchamp. »« Quoi, madame, une pareille somme ?»« Sans doute. Ne vous dois-je pas bien cela pour vos bons services, Grandchamp ? Et puis, outre mes dettes envers vous, n'ai-je pas aussi à payer celles de mon père ? Mais, madame, sans contrat, sans procuration, je ne puis rien faire. »« Ah, il a raison, » dit Remi. « Trouvez un moyen, » dit Diane. Rien de plus simple, cette maison a été achetée en mon nom, je la revends à Grandchamp qui, de cette façon, pourra la revendre lui-même à qui il voudra. Faites. Remi prit une plume et écrivit sa donation au bas du contrat de vente. Maintenant adieu, dit la dame de Montsoreau à Grandchamp, qui se sentait tout ému de rester seul en cette maison. Adieu, Grandchamp, faites avancer les chevaux tandis que je termine mes préparatifs. Alors Diane remonta chez elle, coupa avec un poignard la toile du portrait, le roula, l'enveloppa dans une étoffe de soie et plaça le rouleau dans la caisse de voyage. Ce cadre, demeuré vide et béant, semblait raconter plus éloquemment qu'auparavant encore toutes les douleurs qu'il avait entendues. Le reste de la chambre, une fois ce portrait enlevé, n'avait plus de signification et devenait une chambre ordinaire. Quand Remi eut lié les deux caisses avec des sangles, il donna un dernier coup d'œil dans la rue pour s'assurer que nul n'y était arrêté, excepté le guide. Et puis, aidant sa pâle maîtresse à monter à cheval, « Je crois, madame, dit-il tout bas, que cette maison sera la dernière où nous aurons demeuré si longtemps. »« L'avant-dernière, Remi, dit la dame de sa voix grave et monotone. Quel sera donc l'autre ? Le tombeau remis. Fin du tome deuxième.